à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont vous pouvez retrouver les derniers opus sur la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler des nouvelles de la fin du monde, mais cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose en termes de fin du monde. Bah, des petites pollutions par-ci, par-là. Des petits incendies, oui, c'est le début. Et puis, des petites inondations, mais pas plus que d'habitude. Non, mais bien sûr, il y a, dans ces nouvelles de fin du monde, eh bien, le fait que certains êtres humains se disent, tiens, si on accélérait tout ça, oui, il en est certain, qu'ils se disent qu'en envoyant des missiles sur le reste de la planète, et en particulier sur leurs voisins, ça pourrait peut-être nous amener plus près de la fin. Ou alors, c'est parce qu'ils veulent augmenter leur part du gâteau. Ah, si tous ces gens se disaient que si eux ne voulaient pas augmenter leur part du gâteau, il y en aurait pour tout le monde, on serait quand même dans un monde beaucoup plus joli. On aurait pu vous parler des activités de plein air qui se multiplient en ce moment. La semaine dernière, samedi 24 mars, il y a eu plein de gens dehors pour dire « Ah, bah, le climat !» Non, c'était pas « Bah, le climat !» C'était pour la défense du climat. Et oui, c'est une erreur fondamentale que se disent certains. Il y aurait tout le temps des manifestations contre. Mais non, il y a aussi des manifestations pour. Et donc, le jeudi 17 mars, par exemple, une journée était chargée avec une grève interprofessionnelle à laquelle n'appelait pas la CFDT. Mais étrange, non ? Une grève interprofessionnelle pour les salaires, les pensions et les minima sociaux. En gros, le pouvoir d'achat, bon, c'est pas la revendication que je préfère, mais il faut quand même penser à tous ceux qui se sont fait avoir par la vie conforme et qui tirent la langue dès le 15 du mois parce qu'il faut payer les traites de la maison et de la voiture. Et pourquoi on a une voiture ? Bah parce qu'on a une maison, mais pourquoi ? Quel est le lien entre les deux? Parce que la maison, elle est loin. Elle est loin parce qu'on n'a pas pu s'acheter quelque chose près de l'endroit où on travaille, où on se fait un petit peu exploiter, mais où on travaille. Pourquoi? Parce que c'est trop cher. Alors du coup, il nous faut une voiture que l'on alimente avec de l'essence qui coûte la peau du dos en ce moment. Alors les revendications là sur les minima sociaux, c'est pas malheureux parce que les ASS, le RSA, tout ça, c'est pas BSF, hein. On est aux environs de 500 euros par mois. Allez, essayez de vivre avec 500 euros par mois. C'est pas facile. C'est tellement pas facile que personne n'y arrive. C'est pour ça peut-être que ceux qui se font passer pour nos représentants n'augmentent pas ces minima sociaux parce que comme ça, ça vous oblige à aller trouver n'importe quel boulot, n'importe où. Tiens, d'ailleurs, cette semaine, on a eu le droit à une petite prestation présidentielle où la guerre aux pauvres continue. Hein. Elle a été initiée il y a des dizaines d'années déjà par les libéraux. Et là, ça continue, oui, travailler jusqu'à 65 ans avec les mêmes horaires que quelqu'un qui en aurait 20. Travailler donc plus longtemps. Quand vous êtes au RSA, aux minima sociaux, eh bien, il faudra prouver que vous avez un intérêt pour la société en trouvant des activités. Je sens qu'il y en a qui vont se gaver sur le dos de ceux qui n'ont pas les moyens de faire autrement que de se retrouver au RSA. Oui, petit problème de dépression, des petits problèmes d'accident de la vie, comme on dit, des petits problèmes de burn-out. Et à un moment, on peut tomber assez facilement. De fait, cette journée du 17 mars, ça a été l'occasion de mettre les autres en garde entre être et avoir. Choisis ton camp, camarade. Au Mans, la manifestation était organisée devant la maison des syndicats à partir du PCC, à côté du PCC, pardon, à 14h. On a pu compter 550 personnes avec plein de gens qui étaient là, non pas pour faire la fête, mais pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Des activités de plein air qui sont souvent encadrées par les forces de l'ordre et au hasard des besoins d'images fortes à diffuser dans les médias à genoux, eh bien d'exemples arbitraires aussi qui dissuadent les autres de participer. Ou alors parce qu'on est pris la main dans le sac comme lors de manifestations non déclarées et on peut très facilement se retrouver en garde à vue. Aussi, la maison d'édition Projet Évasion a décidé de faire quelque chose avec tout ça. Quoi ? Des choses sans doute très intéressantes et en l'occurrence, nous indiquer quelle est la possibilité que nous avons de travailler pendant qu'on est en garde à vue. Comment faire pour ne pas se faire avoir par la garde à vue en question, comment faire pour ne pas se faire avoir et pour ne pas se mettre en difficulté. Eh bien, du coup, pour ne pas se mettre en difficulté, il faut éviter de parler. Ce livre Projet Évasion, qui est donc une maison d'édition située en Suisse, fait un appel aux dons pour éditer un livre justement sur les interrogatoires et la façon de s'en défendre. Le don peut se transformer en précommande pour un livre que tout le monde devrait avoir lu. Un interrogatoire n'est pas un échange harmonieux entre deux individus se plaçant dans un rapport d'égalité. Ah non, 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 pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même tout à fait le contraire, puisque vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas trop de choix et où on vous dit bien que si vous ne faites pas comme on vous dit, eh bien vous allez avoir des grosses, grosses difficultés. Et les grosses difficultés en question, eh bien on espère que vous ne les aurez pas, mais il s'agirait de faire très attention. On aurait pu vous parler également de plein d'autres choses, mais par exemple, on aurait pu vous parler d'attention. Comment ça, attention ? Oui. Faites gaffe, quoi. Une association qui s'appelle Lève les yeux organise les deuxièmes assises de l'attention le samedi 19 mars 2022, salle La Bellevilloise à Paris. Alors ben oui, on n'est pas à Paris, on n'est pas à la salle La Bellevilloise, mais depuis 9h30 a lieu pour les auditeurs du direct ces fameux deuxièmes assises de l'attention. Le thème de la journée est « La planète numérique est-elle viable ?» Eh bien viable, il semblerait qu'elle ne le soit pas. Pourquoi ? Ben parce que tout simplement, il y a le principe de la dématérialisation. Alors prenons simplement les éléments physiques. Les éléments physiques, ce sont toutes les infrastructures dont on a besoin pour faire quoi ? Ben pour faire en sorte que ces ressources numériques puissent nous arriver dans nos chaumières, puissent arriver sur nos portables. Alors ben, du coup, il faut développer un certain nombre de réseaux et ces réseaux, ben, devinez, ça utilise de la matière. La fameuse dématérialisation, elle pourrait être simple, elle pourrait être efficace, elle pourrait nous faire croire que finalement tout ce que nous faisons n'a plus aucun impact sur l'ensemble de la société. Mais de fait, quand on parle du cloud, eh bien le cloud, il n'est pas dans les nuages. Non, non, pas du tout, il est dans les data centers. Et les data centers, eh bien ça utilise beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais au-delà de l'énergie, ça utilise également, on y reviendra sur l'énergie, ça utilise également de la matière première. Pas par exemple, puisque les data centers sont des endroits où on va récolter des données, il va falloir les stocker, ces données. Ben, ces données, elles ne se stockent pas comme ça dans l'éther, comme on disait au 19e, pour essayer d'expliquer ce qu'il y avait autour de la Terre. Non, 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 pas du tout, c'est stocké sur des disques durs. Et voilà, eh ben oui, le mythe de la dématérialisation en prend un tout petit coup, puisque cette dématérialisation, de fait, elle va vous demander du cuivre, des terres rares. Qu'est-ce qu'elle va demander également ? Bah, du plastique. Qu'est-ce qu'elle va demander également ? Toutes ces choses qui font que on n'est pas très très forcément très très content de les retrouver dans nos déchets, tous ces matériaux et tous ces matériels. Des déchets d'ailleurs que l'on a du mal à retraiter. Oui, des déchets que l'on va trouver où ? Bah, par exemple dans les bidonvilles qui entourent Accra. Au Ghana, on a tous vu les fameux reportages où des gamins en haillons brûlent du plastique autour des fils de cuivre pour récupérer le cuivre en question, pour récupérer le métal. Eh bien, tout ça, c'est la réalité de la dématérialisation. Derrière la dématérialisation, derrière le mythe que l'on nous vend avec des jolies publicités où finalement tout le monde se retrouve au ciel, eh bien, il y a surtout du matériel. Et ça, nos sociétés ne vont pas trop pouvoir soutenir cette façon d'utiliser les ressources en question. Oui, parce que l'air de rien, quand vous envoyez une information à votre GPS pour qu'il vous dise où aller, eh bien, ça demande des satellites. Ouais, ça demande des satellites, c'est pas rien. Il faut les envoyer, ces satellites. Ensuite, il faut les remplacer parce qu'à un moment, ils se cassent la figure. Et tout ça, eh bien, ça fait que je vais y arriver. Ça fait que la dématérialisation, elle ne l'est pas tant que ça. Elle demande beaucoup, beaucoup de matériel, ce qui n'est pas du tout viable pour nos sociétés. À lire sur le sujet, le livre de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique, c'est aux éditions des Liens qui libèrent. Et puis, on parlait d'énergie. Eh bien, de l'énergie, on n'en a pas à revendre. Et 12% de l'énergie qui est utilisé en France, de l'électricité, pardon, qui est utilisé en France, eh bien, serait dû au numérique. Ça représente un certain nombre de tranches de centrales nucléaires, hein, Belleville, Nogent, Golfech. Si vous additionnez les trois, qui ont plusieurs tranches, hein, mais ces trois centrales nucléaires, on arrive à peu près à 45 terawatts de production en 2019, alors qu'en 2019, il a été consommé 56 terawatts au titre du numérique. C'est du moins ce que l'on trouve sur le site du gouvernement, du site développement durable, du ministère du développement durable qui est maintenant passé à la transition énergétique. Donc ça fait beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup de matériaux. Bah, déjà une première réponse, je n'ai pas l'impression que ce soit soutenable. Et puis bah, maintenant parlons un petit peu des gamins. Les gamins, eux, ils se retrouvent aussi avec cette histoire d'attention. Ils se retrouvent aussi dans ce monde de l'an 2000, puisque justement, on les appelle les millennials. Ils sont nés avec le millénaire. Tous ces enfants sont appelés aussi, alors certains sont maintenant un peu plus grands, sont appelés les digital natives. Ils sont plus rapides. Ils ont un côté mutant. Ils seraient totalement différents de nous. Leur cerveau serait déjà reconnecté. Grâce à la plasticité cérébrale, il serait déjà reconnecté à l'ensemble des produits que nous, qui sommes nés au XXe siècle, ne sommes pas capables de tout à fait gérer. On vous met un téléphone portable dans les mains, à un moment, si vous essayez, vous allez trouver un certain nombre de fonctionnalités et savoir comment faire. Alors, vous taperez peut-être pas aussi vite vos mini-messages, mais est-ce vraiment si important? On peut se poser la question. Eh bien, les fameux digital natives, on nous les vend comme étant des gens totalement différents, et qui sont tellement bien intégrés que bientôt, ils vont tous nous supplanter parce que ce sont des bêtes en informatique. Alors bon, bah, une bête en informatique, ça aura toujours besoin de manger. Je rappelle quand même que les agriculteurs ont un autre rôle à l'intérieur de cette société et que si on se contentait d'acheter des choses virtuelles dans des jeux vidéo, par exemple, ça ne nourrirait pas son homme. Alors, ces enfants, ces millennials, est-ce qu'ils sont véritablement beaucoup plus intelligents que nous? Et est-ce que le numérique rend leur vie encore plus passionnante? Eh bien, il se trouve que le 9 mars, sur France 5, le magazine de la santé disait ceci.
Il y a deux moments chez les petits où les écrans sont à éviter, juste avant d'aller à l'école et durant les repas.
Exactement, et ça, c'est scientifiquement prouvé. C'est vrai, quand on parle d'écran, on a tendance à croire qu'on veut culpabiliser les parents. Mais regardez, c'est extrêmement important. C'est une étude menée par Santé publique France qui révèle que les enfants qui vont s'exposer aux écrans juste avant d'aller à l'école vont avoir un risque multiplié par 6 de troubles du langage. Ce qui est inquiétant dans cette étude, c'est que 85% des enfants de moins de 2 ans sont exposés aux écrans. Mais attention, il n'a suffi que de 20 minutes pour avoir un impact sur leur santé. Ce qui veut donc dire que c'est pas tant la durée qui compte, mais aussi le moment où vous êtes exposé à l'écran. Et pour bien vous faire comprendre ça, on a aussi pris une étude menée par l'ITSERM. Cette fois-ci, c'est des enfants, 1600, qui ont entre 2 ans et demi et 5 ans, et qu'on a suivi pour savoir à quel moment ils vont consommer des écrans. Et là, on se rend compte que les enfants qui vont consommer des écrans au moment du repas vont là encore augmenter leurs troubles du langage. Un message très simple, c'est lorsque vous êtes derrière un écran, à table, vous ne participez pas, il n'y a pas d'interaction et par conséquent, le langage des enfants est plus pauvre. Ce sont les deux moments clés où il faut à tout prix interdire les téléphones portables et les écrans.
Eh ben voilà, ça a le mérite d'être clair. Il apparaîtrait quand même que des relations avec des êtres humains soient intéressantes pour ces fameux digital natives. Oui, les digital natives auraient besoin qu'on leur donne un petit peu d'informations, que des êtres humains leur parlent pour que il n'y ait pas de trouble du langage. C'est bien beau de réussir à taper des mots approximatifs sur un portable. Mais est-ce que véritablement ça fait de la communication? On peut se poser la question. Parce que dans la vraie vie, si vous allez à un moment à la boulangerie, il va bien falloir demander quelque chose à la vendeuse, qui est souvent une vendeuse. C'est pour ça que j'ai pas dit au vendeur. Je m'enfonce là. Donc de fait, à partir du moment où vous aurez besoin de parler à des gens, si vous n'êtes pas capable d'articuler trois mots, ou si vous avez des difficultés à exprimer clairement vos besoins, vous vous retrouvez dans une situation où il peut être difficile de communiquer avec le reste du monde. Et on sait très bien que quand la communication est difficile, peut apparaître ce qu'on appelle de la violence, alors qu'elle soit verbale, physique ou autre, ou une violence qu'on se fait à soi-même. Une espèce d'auto-censure qui fait qu'on se prend pour quelqu'un qui n'est pas très intéressant à force de ne pas réussir à dire ce que l'on voudrait. Eh bien, ces jeunes-là, il apparaîtrait que il y avait auparavant un document qui indiquait qu'il fallait, un document émanant des autorités et qui était basé sur un certain nombre d'études, qu'il ne fallait pas exposer les enfants à avant 3 ans aux écrans. Eh bien, cette tentative a été faite pour cette tentative de ne pas exposer les enfants de moins de 3 ans aux écrans a été faite à partir d'un projet de loi qui est passé au Sénat. Le projet de loi en question, qui date de novembre 2018, avait pour but de faire apposer sur les documents, sur les éléments, les instruments qui peuvent comporter un écran, donc sur tout ce qui est tablette, sur tout ce qui est portable, etc., justement de mettre une petite information, hein, comme sur les paquets de cigarettes ou sur sur l'alcool, eh bien un petit calicot, un petit quelque chose qui indiquerait que avant 3 ans, il ne faut pas exposer les enfants aux écrans puisque ça peut être dangereux pour leur développement intellectuel. Une indication que l'on va trouver sur les carnets de santé qui sont distribués depuis la même époque aux jeunes mamans et aux jeunes papas. Et bien du coup, ça n'a pas passé l'Assemblée nationale, non. Le ministère de la Santé et des Solidarités, je ne sais pas s'il s'appelait comme ça à cette époque-là, mais en tout cas, il était tenu par Madame Buzyn. Eh bien, ce ministère a mis non pas son veto, puisque le pouvoir exécutif ne peut normalement pas mettre un veto sur une loi, mais en tout cas, il s'est arrangé pour que, avec son avis défavorable, eh bien, les membres LREM de la commission de la commission des affaires sociales, eh bien, décide de ne pas continuer sur cette lancée, même si le Sénat et tous les groupes confondus avaient voté pour la mise en place de cette information à l'intention des parents pour éviter que les enfants de moins de 3 ans soient trop exposés aux écrans. Eh bien, il apparaît même que l'OMS, lui, parle de 5 ans. Jusqu'à 5 ans, il ne faudrait pas exposer les enfants aux écrans ou alors avec un accompagnement très, très important pour éviter justement que ces enfants ne se retrouvent dans un monde totalement virtuel avec peu d'adultes autour d'eux et que bah, ils soient totalement passifs devant un machin qui leur montre des dessins animés ou des soi-disant logiciels éducatifs, mais en tout cas, personne avec qui interagir en tant qu'être humain. Eh bien, du coup, cette histoire, on la retrouve aussi à l'école, puisque l'école était une espèce de cheval de Troie incroyable pour les vendeurs de rêves techniques. En 2016 a été développé le plan École numérique à l'initiative du Parti socialiste au pouvoir à l'époque. Le pipeau est toujours le même, hein. Nous sommes en retard. En retard de quoi? Bah, on est en retard, cherche pas, on est en retard par rapport à la technique, on est en retard par rapport à la technologie, on est en retard par rapport à nos voisins, on est en retard par rapport... Alors, il faut absolument que nous rattrapions ce retard. Il faut rattraper le monde qui arrive à grands pas et qui va tous nous écraser. Bon, de fait, ça s'est pas tout à fait passé, hein. Sur le site de l'Éducation nationale, à propos de ce plan école numérique, on peut lire. La stratégie pour faire rentrer l'école dans l'ère numérique vise à développer un écosystème global de l'e-éducation. Depuis les contenus et services jusqu'au matériel, elle s'appuie sur la mobilisation coordonnée des différents acteurs pour mettre en place les conditions optimales d'un développement harmonieux et efficace des usages, des ressources, des équipements, des infrastructures, de la formation, des enseignants et des compétences numériques des élèves. C'est beau tout ça, dis donc, un développement harmonieux, je t'en foutrais moi. Un écosystème, bah tout de suite, on se dit qu'il y a un petit peu moins de matériel qui va être gaspillé, des compétences, et puis voilà comment le grand public se laisse bluffer par la multiplication des béquilles technologiques qui sont donc offertes à des enfants dont les compétences langagières en calcul et en lecture s'effondrent. Selon les enquêtes PISA qui sont faites par les libéraux de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, donc ce ne sont pas de dangereux gauchistes comme on dit, dans celle de 2018, dans l'enquête PISA de 2018, la dernière en date dont on a les informations, on peut lire à propos de la France, je cite, « En compréhension de l'écrit, la stabilité apparente du score occulte des tendances différentes aux deux extrémités du spectre de performance. Le score a dans l'ensemble diminué chez les élèves les moins performants, de 4 points en moyenne par intervalle de 3 ans, mais augmenté chez les élèves les plus performants, de 3 points en moyenne à l'intervalle de 3 ans. De fait, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que ceux qui savent lire, ceux qui savent lire le savent encore mieux, et puis ben, ceux qui ne savent pas trop lire le savent encore moins. Mais ce problème, il va se retrouver tout au long de la scolarité de l'élève. Je bois un coup. Tout au long de la scolarité de l'élève, l'élève aura affaire à de l'écrit. Alors de fait, s'il prend un mauvais départ, eh ben ça risque d'être compliqué. Et du coup, nous voilà donc avec des enfants qui sont de plus en plus nombreux à ne pas comprendre un texte simple en sortant de l'école à 16 ans ou plus. Mais par contre, ils savent retweeter et attacher un fichier à un message. Ben alors, ça y est, ils sont sauvés. Ben, je me demande même pourquoi on n'a pas pensé plus tôt à faire en sorte que ces enfants n'aient plus besoin d'avoir des interactions et se retrouvent avec des tablettes et simplement des tablettes. Eh bien, figurez-vous que ce sont des plans qui ont été mis en œuvre. Oui, des plans qui ont été mis en œuvre aux États-Unis, qui a fait une grosse marche arrière. Et cette marche arrière, elle a été aussi accompagnée de la création d'écoles sans écran. Des écoles sans écran où on va retrouver, et ça a été publié dans le New York Times en 2014, des reportages entiers où on voit que les cadres des grandes entreprises de la Silicon Valley, hein, les Google, Facebook et compagnie, eh bien envoyaient leurs enfants dans des endroits où il n'y avait pas d'écran. Pourquoi ? Eh bien, d'aucuns disaient... Ben parce que on sait, nous, ce que ça fait, puisqu'on a créé l'architecture qui fait que des enfants se retrouvent toute la journée devant un écran à scroller. Alors, ben, on n'a pas envie que nos gamins soient dans cette situation-là. Ou alors, le plus tard possible. De fait, l'école, en mettant des écrans partout, elle se dit peut-être qu'il y a de l'efficacité. Mais alors, laquelle ? Eh bien, je vous enjoins à écouter l'épisode de la semaine prochaine. Journée nationale contre le racisme et les violences policières, c'est ce samedi 19 mars pour les auditeurs du direct. Si vous voulez aller faire un petit tour à Poitiers, c'est place du Maréchal Leclerc, à Paris, place du Châtelet. Et il y aura également lieu des manifestations à Limoges, à Bordeaux, à Metz, à Saint-Étienne, etc. Renseignez-vous, le racisme, ce n'est pas une opinion. Certains disent que c'est un délit. C'est surtout une bêtise crasse qui est basée sur l'adoration du hasard. Le fait de considérer comme une partie prégnante de son identité, le fait d'être né quelque part et donc de baigner dans une culture particulière. Moi, je trouve ça fantastique qu'il y ait des militants du racisme, c'est-à-dire des gens qui veulent continuer à nous faire croire qu'il y a une hiérarchie entre êtres humains. Ça montre un certain manque d'ouverture. Eh bien, on en a plein les télévisions actuellement, puisque c'est les élections présidentielles et la campagne qui arrive, où il y aura bientôt égalité. Et donc, on entendra un peu moins l'extrême droite, puisque les sondages qui servent de base à la fameuse équité, eh bien, les mettent un petit peu, peut-être un petit peu trop. On aura l'égalité. Alors, on entendra peut-être un petit peu d'autres discours que le simple fait qu'on doive travailler plus et virer les bougnoules. On aurait pu également... qu'est-ce qu'on doit vous dire ? Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Si vous avez loupé la projection de Media Crash, jeudi 17 mars, en présence du rédac-chef de Mediapart, Edoui Plenel, eh bien, une séance de rattrapage aura lieu le dimanche 20 mars pour les auditeurs du direct. Au cinéaste, place des Comptes du Maine. Pour la suite, j'ai pas réussi à avoir l'information. Donc, à 18h, dimanche 20 mars, projection du documentaire Media Crash de Luc Herman et Valentine Auberti. Un documentaire où on apprendra, par exemple, quelle est la place de Bolloré dans les médias et quelle est la capacité du groupe Bolloré à créer des juridictions en Afrique.
Comment est-ce possible qu'on ait une décision qui était rendue par un tribunal qui, à la date où il est censé avoir été rendu, n'existait pas ?
C'est fantastique. On apprendra également dans ce documentaire Media Crash comment le gouvernement actuel n'a aucun scrupule à crédibiliser un Cyril Hanouna.
Vous avez très gentiment accepté qu'on puisse faire un grand débat officiel sur le plateau de Balance ton poste, qui a d'ailleurs été enregistré et comptabilisé officiellement comme un atelier du grand débat.
Oui, c'est une ministre. On l'entend moins, mais elle est toujours ministre. Bah, faut dire qu'elle s'est un peu crachée dans les médias, justement. Et donc, dans le documentaire Média Crash, on apprendra également comment Bernard Arnault menace des journalistes. Attention, vous allez l'entendre.
Bernard Arnault interpelle le journaliste Tristan Walex sur la fameuse histoire de Bordeaux.
C'est l'opération que vous avez montée, là.
Mais alors, vous savez que c'est complètement faux. Avec...
Ça, bah, écoutez, vous ferez mieux de vérifier parce qu'on a des preuves. Hein.
Ah bah...
Vous ferez mieux de faire attention parce
J'aimerais bien savoir.
Que le gars même dit... Hein, que vous l'avez demandé, que vous alliez le rétribuer, etc.
Non, mais
c'est
vous,
parce qu'on a des éléments.
Mais c'est complètement faux, cette histoire.
D'accord, bah, j'espère pour vous.
Jamais de la vie. Mais vous nous imaginez monter un truc pareil. Enfin, justement, on est clairs.
Mais je pense que vous devriez vous méfier parce qu'on a des éléments. Je ne voudrais rien de plus. Allez, moi, je m'en vais, j'en ai marre.
Eh ouais, il a des éléments. Bon, bah, vous voyez, hein, vous feriez mieux de vous méfier. Ce personnage est capable de tout, mais il n'est pas tout seul et il possède une partie de la presse que nous lisons, que nous écoutons, que nous voyons. Eh ben, je vous conseille de vous renseigner. Média Crash, c'est assez intéressant pour qu'on ait envie de vous en dire plus. On aurait pu également vous annoncer que dimanche 20 mars 2022 à 14h30, à la Maison des Citoyennes, c'est Place des Comptes du Maine, vous allez derrière l'arrêt de tram. Du côté de la Place des Comptes du Maine, bien sûr, vous descendez les escaliers. Et là, une porte automatique s'ouvre. Et tout un monde s'ouvre à vous, et en l'occurrence la maison de la citoyenne et du citoyen. Et là, est proposé donc dimanche 22 à 14h30, un documentaire qui s'intitule « Lettre à G », le film « Repenser notre société » avec André Gorz, l'un des intellectuels les plus stimulants du 21e siècle, disciple de Sartre, très influencé par Ivan Illich. Il fut tout à la fois philosophe, journaliste engagé, critique économique, penseur de l'autonomie et pionnier de l'écologie politique en France. Et du coup, nous, bah, on en avait un petit peu parlé, alors on va se repasser un petit extrait de À Voix Nue, une émission de France Culture où intervenait André Gorz, histoire de voir de quoi est faite sa pensée.
Il faut trouver à investir avec profit le profit tiré des capitaux déjà investis. Donc il faut élargir les débouchés, élargir le marché pour des productions croissantes.
Et ça, c'est une démarche perverse.
Et cette démarche conduit à accroître la consommation individuelle. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'accroissement de la consommation n'est plus synonyme d'accroissement du bien-être. Le lien entre plus et mieux est rompu. Et si vous voulez tenir compte de cette rupture et permettre une qualité de vie meilleure, il vous faut changer, pas seulement de technique, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il vous faut réorienter le système économique de façon à maximiser la valeur d'usage des produits, donc leur longévité, leur qualité intrinsèque, au lieu de chercher à maximiser leur valeur d'échange, c'est-à-dire ce que ça rapporte à chaque entreprise ou à la croissance économique en général. Et vous ne pouvez pas imaginer une reconversion écologique, c'est-à-dire une restructuration de notre appareil de production en vue d'avoir non pas plus et moins bien, mais moins mais mieux, de consommer moins tout en vivant mieux, parce qu'on consomme autrement et qu'on travaille autrement. Vous ne pouvez pas avoir cela sans engager une politique globale au service d'un paradigme écologique qui va simplement... de vous occuper de la préservation de l'environnement. Une politique écologique est nécessairement une politique anticapitaliste, une politique qui cherche à limiter le champ de la consommation marchande et des échanges marchands.
Eh ben voilà, ça a le mérite d'être clair. Et pourtant, eh ben on continue à nous bassiner avec la croissance verte. Bon, on va pas trop s'énerver. Vous dire simplement que la semaine prochaine, il y a également une grande... Je me perds dans mes mots. Il y a une mobilisation importante contre les méga-bassines, ces grands réservoirs que l'on met un petit peu partout, notamment dans le Marais Poitevin. Et ça aura lieu vendredi 25, samedi 26, dimanche 27. Renseignez-vous sur les internets pour un printemps maraîchin, mobilisation contre les méga-bassines. En attendant, nous, on vous dit tout simplement, allez, au revoir.
Du Luc. Mm-hmm.